bienvenue dans cette émission. Insécurité au nord Kivu, 22 civils ont été tués dans la nuit de lundi au village Mwenda, secteur Rwenzori, territoire de Beni, par les rebelles des ZDF. Un massacre qui porte à 39 le nombre de personnes tuées dans ce territoire en l'espace d'une semaine. Peu avant l'attaque de Mwenda, les FRDC appuyés par la MONUSCO avaient réussi à récupérer le village de Loselose des mains des ZDF au cours des combats qui avaient fait 14 morts dans les rangs des rebelles. Comment expliquer cette persistance des tueries à Beni et que faire pour arrêter les massacres à répétition contre les civils dans cette partie du pays? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission le lieutenant Anthony Mwalushai, le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, Grand Nord, au Nord Kivu. Bonsoir, lieutenant Anthony Mwalushai.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les co-débatteurs. Bonsoir aux auditeurs de Radio Kapi.
Paul Mouindo, député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Il est président du caucus des députés du Grand Nord. Il est également cadre du parti politique RTD-KML. Bonsoir, honorable Paul Mouindo.
Bonsoir à M. Guimaté, bonsoir à tous les co-débatteurs, à tous les auditeurs également.
Et professeur Chobert Agenonga, il est professeur à l'université de Kisangani, il est spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Et bonsoir professeur Chobert Agenonga. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Adieu. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Nord Kivu, 22 civils tués, plusieurs autres portés disparus, c'est le bilan encore provisoire de l'incursion lundi dernier des ZDF dans les villages de Mwenda, situé à 9 km au nord de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, en territoire de Beni. D'après les sources sécuritaires, les massacres de Mwenda seraient des représailles de ces rebelles aux populations civiles après la défaite qui leur avait été infligée par les FRDC avec l'appui de la MONUSCO à Loselose le week-end dernier. C'est Komi Katondolo pour les détails.
D'après les sources locales, les rebelles des ZDF seraient venus du côté des Kyavikere pour s'attaquer aux populations civiles dans le village de Mwenda. La société civile du secteur de Rwenzori parle de 22 civils tués et plusieurs autres portés disparus. Wilson Batoleni, son président.
Avec cette incursion, l'ennemi a massacré 22 personnes. C'est le bilan encore pour joie, mais on continue à vérifier qu'il n'y a pas d'autres personnes massacrées. Et les personnes portées disparues jusque là ne sont pas identifiées.
D'après plusieurs sources sécuritaires contactées, il parle plutôt de représailles de ce rebelle de l'ADF sur la population civile de Mwenda après la reconquête vendredi dernier de Loselose par les FRDC appuyés par la MONUSCO. L'attaque avait fait 14 morts du côté de l'ennemi. Le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, secteur opérationnel Grand Nord, le lieutenant Anthony Mwalushai, a promis de se prononcer après la réunion avec les commandants des opérations qui restent, selon lui, très préoccupé par la situation dans les Rwenzori. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Merci à vous, c'est Kombi Katondolo. Lieutenant Anthony Mwalushai, vous êtes porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord au Nord Kivu. Comment vous expliquez cette persistance de l'insécurité à Beni en dépit de cette synergie qui a été mise en place, hein? Vous avez les unités d'élite des FRDC qui sont déployées depuis plusieurs années. Il y a des unités d'élite des forces de la MONUSCO, des unités d'élite de la police nationale. Vous avez les renseignements de la RDC et de la MONUSCO. Mais on continue à massacrer les civils. Des hypothèses, hein? Soit l'approche utilisée jusque-là n'est pas efficace. Nous menons une guerre classique contre un ennemi qui nous impose une guerre asymétrique. Soit, comme le soutiennent certains analystes, c'est une situation qui est entretenue. Et à votre avis, quelle est l'hypothèse la plus plausible?
D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant de commencer l'analyse de ce soir, je préfère compatir avec les habitants de Rwenzori dans son ensemble et les dire, les promettre que nous sommes toujours à ses côtés pour imposer la paix, quelle que soit la forme. Alors, pour revenir à votre question, Je dois vous avouer que nous sommes une armée et professionnelle, une armée qui a tellement combattu à l'est du pays. Et si ce n'était pas pour SRDC, aujourd'hui, on n'allait plus parler de cette partie du pays, j'allais dire de Beni. Nous faisons face à beaucoup de choses à la fois. Parce que ceux qui sont loin veulent seulement la guerre, au massacre, on tue à Beni. Mais ce terrain peut, ont du mal à accepter la victoire, le mérite de notre armée. Vous avez parlé de la MONUSCO, vous avez parlé de la police nationale congolaise, vous avez parlé des FARDC. Ce sont des forces qui sont là pour sécuriser la population, pour amener la paix dans son ensemble, mais chacun a un rôle bien déterminé. Alors, moi je vais épouser votre deuxième hypothèse. Ce qui se passe ici à Beni, parfois est voulu et entretenu par certains leaders qui font trop de bruit dans les médias pendant la journée. Vous allez comprendre, ces derniers temps, il y a maintenant une semaine, depuis que l'ennemi s'est focalisé du côté Rwenzori, l'armée a tourné presque ses forces dans cette zone et a montré de quoi elle est capable. Nous avons été avec la MONUSCO, la police, et je vous confirme que l'armée a travaillé durement et a délogé l'ennemi et a déjoué même le jeu que beaucoup pensaient être réalistes. Parce qu'il faut dire que tout ce qui se passe ici, certains ont des cartes en dessous.
Vous dites que c'est une situation qui est voulue et entretenue par certains leaders. Et quels sont ces leaders, si vous les connaissez? Pourquoi vous n'avez jamais réussi, n'est-ce pas, à les mettre hors d'état de nuire?
Nous allons y arriver. Je pense que c'est vraiment une émission qui est pédagogique et aussi à la fois une émission de vérité. Parce que beaucoup de gens pensent que quand l'armée ne parle pas, c'est-à-dire l'armée n'a pas de preuves, parfois l'armée n'a rien à dire, l'armée a échoué. C'est le discours qu'on a toujours entendu dans les médias chaque jour. Mais je vais vous dire quelque chose. Honorable et témoin, il est là avec nous ce soir. Je pense que et il va aussi nous dire d'autres vérités qu'il a dans son cœur. Il n'y a pas de jour, l'honorable a téléphoné le commandant secteur pour le féliciter de bon travail réalisé à Rwenzori. Et il connaît ce qu'il a même offert au commandant secteur. Ça montre vraiment que l'honorable reconnaît le travail que l'armée est en train de fournir sur le terrain. Mais l'honorable aura du mal à accepter que et cette situation dans les Rwenzori est voulue et entretenue par certains députés que lui-même connaît. Il y a un problème à Rwenzori. 10 militaires, 10 soldats de l'armée loyaliste ont été tabassés, lynchés, tués par des groupes d'individus entretenus, formés par nos élus, du millier. Alors ça, dans les médias, on n'en parle pas. Quand l'armée arrive à neutraliser 14 ADF, on n'en parle pas. Avant-hier, nous avons découvert au moins 50 corps de l'ennemi. Personne n'en parle, on ne fait pas trop de bruit. Mais au moment où c'est un civil qui est tué, c'est tout le monde qui tourne contre l'armée. S'il vous plaît, je termine mon idée. Il y a un plan bien déterminé à faire partie de la MONUSCO, à faire partie de l'armée de cette région, pour maintenant appliquer l'agenda qu'ils ont déjà manifesté depuis trop longtemps.
Oui, mon lieutenant, quand vous dites que les exploits qui sont accomplis par les FARDC ne sont pas souvent exploités dans les médias, je ne pense pas que cela soit vrai, hein, parce que vous vous rappelez que chaque fois quand les FARDC reprennent ou arrivent à reconquérir, n'est-ce pas, certains bastions des rebelles LDF, cela est évoqué dans la presse, et récemment c'était l'OCLOC qui a été repris, n'est-ce pas, aux rebelles EDF, cela a été largement exploité dans la presse, mais l'exemple pour nous c'est qu'il y a des exploits d'un côté des FARDC, et pendant qu'il y a des exploits, il y a aussi des tueries des populations, et donc ces tueries des populations semblent éclipser les exploits accomplis par les FARDC.
Tout à fait, moi je suis d'accord avec vous, parce que même le commandant secteur a toujours dit, Au moment où nous n'avons pas encore ramené la paix à 100% ici dans cette région de Béni, personne ne va nous applaudir. Et nous ne voulons même pas que personne nous applaudisse, mais seulement nous voulons que certains leaders, certains qui ont quand même un mot à dire sur la population, nous facilitent les choses. Pourquoi aller intoxiquer la population contre son armée, contre les services de sécurité? Alors, cela handicape nos actions sur le terrain. Je viens de vous parler de au moins 10 militaires qui ont été lynchés dans le Rwenzori. Mais on n'a pas entendu ni la société civile faire du bruit, ni les élus faire du bruit. Mais si c'était le contraire, tout le monde allait parler. Mais dans les réseaux sociaux, on en parle chaque jour. Il y a des gens qui passent du jour au jour dans des bureaux climatisés à Kinshasa, contacter les politiques avec l'ancienne musique déjà entendue. On est déjà fatigué. Commandement ne fait rien, les généraux ne font absolument rien, il faut changer. Mais on a changé depuis Général Mundos jusqu'à Tirimoni. Combien de commandements on a changé? Ici, on a l'impression, et même si c'est Jésus-Christ qui descend du ciel pour commander les opérations ici à Béni, alors on va le dire, mon cher Jésus, il faut rentrer en Galilée parce que tu n'as rien foutu. On n'arrive pas à comprendre quel est le programme que ces gens ont et qui refusent de le mettre sur la place publique.
Oui, avant les fêtes, il y avait des informations qui étaient répandues selon lesquelles les EDF avaient annoncé leur intention d'opérer pendant toute la période des fêtes. Et suite à cela, il y a des églises, n'est-ce pas, qui ont demandé à leurs fidèles de ne pas aller au culte. Et malheureusement, cette menace a été mise en exécution. Là, nous sommes en train de déplorer ces 40 civils qui ont été massacrés dans un espace d'une semaine. Cela voudrait dire que l'armée n'a pas pris au sérieux, n'est-ce pas, ces menaces répandues partout à travers la ville de Béni.
Non, c'est le contraire. L'armée a fait son travail. Je vous dis quelque chose. Vous avez passé dans des églises ici qu'on avait menacées. Aucune église n'a été attaquée pendant cette période de fête. L'armée avait déployé ses hommes, la police aussi, et même le témoin de la municipalité était là la journée bien passée, et il y a eu des félicitations de la part des hommes de Dieu. Ça, c'était le 25, c'est passé. Et puis, on a déployé dans d'autres zones. On s'est imaginé que c'était vraiment des points chauds. Et voilà, on a sécurisé, c'est passé. Mais le problème de l'OCLOC, par exemple, c'est au moment où l'armée avait l'effectif là-bas. Là, et puis, quand l'ennemi est arrivé, l'ennemi avait déjà infiltré, même dans la peau. Il était accompagné par le jeune Maïmaï. D'ailleurs, on a arrêté d'autres jeunes qui sont à l'auditoire, hein, qui facilitent, n'est-ce pas, la tâche à l'ennemi.
Vous venez de révéler que l'ennemi s'était infiltré. Et si vous estimez que l'ennemi arrive facilement à s'infiltrer, et pourquoi les FARDC ne peuvent pas, elles aussi, infiltrer l'ennemi?
Écoutez, même si on le fait aujourd'hui, on ne peut pas le dire dans les médias, mais je vous dis que depuis que nous avons commencé nos opérations à Rwenzori, que nous avons commencé à récupérer, par exemple, l'OCLOC et d'autres bastions à Rwenzori, il y a des ennemis qui sont en train d'être capturés vivants par FARDC. Hier, on a présenté à des Ougandais devant la presse. Aujourd'hui, ce sont trois Ougandais qu'on vient d'arrêter pendant la journée en pleine ville de Béni par la population. Aujourd'hui, c'est un chef ADES qui vient de se rendre, il est sorti de la bourse. C'est pour vous dire qu'il n'a pas pu supporter des FARDC. Mais on se demande pourquoi seulement à ce moment où l'armée prend le dessus sur l'ennemi à Rwenzori, que nos leaders qui devaient par contre nous accompagner commencent à faire trop de bruit dans les médias et ils n'arrivent pas à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent au juste.
Merci. Mais aussi la question que l'opinion peut se poser, hein, c'est celle de savoir pourquoi vous connaissez ces élus, n'est-ce pas, qui entretiennent cette situation, mais vous ne faites rien pour le mettre hors d'état de nuire. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Paul Mouindo, vous êtes député national élu du territoire de Béni au Nord Kivu. Vous êtes aussi président du caucus des députés Tigran Nord. Vous êtes également cadre du parti politique RCD-KML. Cela fait 6 ans depuis que le massacre des civils dans la région de Béni. Comment vous comprenez cette persistance des tueries des civils dans cette partie du pays?
Oui, en fait, je voudrais d'abord m'acquitter du devoir. Je crois que c'est difficile de présenter à toutes les populations de Béni encore une fois mes condoléances. leur dire que le jour vient et nous croyons que ce n'est plus pour longtemps, la paix sera totalement une réalité dans nos entités. Aujourd'hui, Monsieur Guy, nous faisons encore une émission avec toi. Il y a longtemps, on faisait ces émissions. Mon village était encore intact. J'ai pas de Mitsora. Je parle de Mitwanga. J'ai pas de Bulongo. Mais aujourd'hui, il n'y a plus presque de population à Mitwanga. On peut estimer 10 à 15% des populations. C'est dans mon secteur où moi je suis né. À Bulongo, il y a presque 10 à 15% des populations qui y vivent. Ma famille, qui vivait pratiquement, et plusieurs familles dans ce coin, ne sont plus dans le secteur d'Azori. Ça, ce sont des faits vrais. Quelle peut être l'intention pour un élu de Azori d'amener à ce que cette population soit tuée, de faire en sorte que même son village soit englouti pour que cet élu puisse être dans l'incapacité de trouver même la terre où il sera enterré.
Et donc vous remettez en cause ces allégations du lieutenant Maloushaï qui estime que cette situation est entretenue par certains leaders politiques.
Voilà, c'est par là que je voudrais commencer. Et c'est même là les dangers, vous voyez, de ce qui se passe chez nous. Vous savez, ce qui se passe chez nous, comme je l'ai dit, c'est le résultat d'une légèreté et des services qui sont au niveau des bénis, qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à mieux jouer leur rôle. Primo, nous avons eu, n'est-ce pas, à présenter beaucoup de propositions au niveau de la République, au niveau de Kinshasa, pour permettre à ce que les choses puissent changer. Mais il est arrivé que beaucoup de nos propositions n'étaient pas prises en compte. Deuxièmement, la légèreté se mesure aussi dans une sorte de globalisation de certains faits isolés par rapport à la situation globale. Le porte-parole aujourd'hui de l'armée dit que ce qui se passe à un secteur Rosori, c'est une affaire entretenue par les leaders du secteur Rosori. Le même porte-parole vient d'oublier qu'il avait dit que ce qui avait attaqué Rosori ou disons Dienga, c'était des ADF. Il avait lui-même dit que ce qui avait attaqué Bulongo, c'était des ADF. Il a déclaré lui-même que ceux qui ont attaqué l'Ocelose, il y avait parmi ces gens-là même des blancs, donc des islamistes. Donc vous comprenez comment notre armée, avec les représentants qui est devant nous, comment ils arrivent à aller des coq à l'âne d'une thèse à une autre, puisqu'on veut par exemple le salir tel, il faut chercher à lui, porter, à lui faire porter des choses qui n'ont pas de sens. C'est le même porte-parole qui avait dit, lorsqu'on avait attaqué à Mbaou, il avait déclaré que ce qui s'était passé à Mbaou, c'était un règlement des comptes familiales. Et puis, il vient d'oublier que, après ce prononcé, le général du secteur était parti à Oïka pour s'excuser à son nom. Il avait encore déclaré le même porte-parole que les journalistes tués au niveau de Kassoussou, emportés à Kassoussou, étaient décédés. Alors que tout le monde, quand on avait cherché les corps, on n'avait pas trouvé ces corps-là. Après, le général était encore venu s'excuser. Voyez combien on traite la vie de nos citoyens avec une légèreté inacceptable. Vous savez, le chef de l'État ne peut se prononcer que sur base des rapports lui fournis par les services. Il arrive à Beni en 2019. Il dit que vous allez fêter Noël dans le calme. Il s'était prononcé sur base des rapports lui fournis par les services. Le ministre de la Défense a été récemment à Beni. Il dit que ces adeptes que vous voyez, vous ne les verrez plus. Encore là, c'était sur base des rapports de service. Mais aujourd'hui, nous continuons à souffrir. Donc, voilà pourquoi je dis, il y a une certaine légèreté très manifeste qui fait qu'aujourd'hui, on puisse assister à une persistance de cette sécurité dans le territoire de Bénin.
Merci.
Donc, moi, je pense que les causes de cette persistance sont totalement multiples. Comme je l'ai dit, il y a également une part, n'est-ce pas, de qui chasse ça au niveau de cette persistance. Nos militaires n'ont pas une logistique importante. Nos militaires n'ont pas assez de jours, assez, n'est-ce pas, assez de nourriture. Et puis maintenant, les services qui sont sur place présentent la situation d'une manière légère, c'est qu'on puisse enraciner davantage dans cette situation.
Merci.
Mais il est possible, moi je l'ai toujours dit, notre armée
a des capacités énormes, si elle a une bonne organisation, si elle a des bons commandements et si elle est totalement bien entretenue. Donc ça, on ne cessera jamais de le dire.
Merci. Professeur Chobert Agenonga, vous êtes professeur à l'université de Kisangani. Vous êtes spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Quelle analyse vous faites par rapport à cette persistance de l'insécurité dans la région de Beni? Vous venez de suivre les deux acteurs principaux. Il y a le lieutenant Mualushai, qui est le porte-parole de Sokola 1, lui qui attribue cette persistance de l'insécurité par le fait qu'il y aurait, n'est-ce pas, certains leaders qui seraient en train, n'est-ce pas, d'entretenir cette situation d'insécurité. Et du côté de l'honorable Paul Muindo, qui est un élu, n'est-ce pas, de Beni, lui il remet en cause cette perception, n'est-ce pas, de Mualushai, et il pense qu'il y a plutôt un problème de perception erronée de la part de ceux qui sont en train de se battre sur le terrain.
Bien, il convient de souligner que c'est depuis octobre 2014 que le territoire de Beni s'est enfoncé dans une spirale de violence, dans un bourbier d'insécurité qui ne cesse évidemment de faire de victimes jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est paradoxal, c'est que 6 ans plus tard, l'on s'aperçoit que toutes les solutions qui ont été envisagées ont révélé leur inefficacité, à tel point que jusqu'à aujourd'hui, selon les statistiques disponibles, on compte plus de 4500 personnes tuées, dont 198 pratiquement en villages abandonnés. Et plus de 100 000 déplacés ont été comptés selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les statistiques d'août 2020. Mais qu'est-ce qui explique exactement la récurrence ou la persistance des massacres dans la région? Il convient de noter que la persistance de violence ou même la résurgence de violence dans les territoires de Beni depuis 2014 est liée principalement à 6 variables. Il s'agit respectivement de l'absence de renseignements exacts sur les assaillants qui sont à la base de massacres de la population dans cette région. À cela s'ajoute le dysfonctionnement interne même aux forces armées de la République démocratique du Congo et l'impunité qui caractérise ces secteurs, le faible contrôle, n'est-ce pas, du réseau transnational et même transfrontalier qui se construit autour des présumés ADF qui sont cités comme étant responsables des massacres dans la région, l'absence de collaboration efficace entre les forces armées et la population de Beni et bien évidemment l'inefficacité de la brigade d'intervention de la MONUSCO dont la mission initiale consiste évidemment à neutraliser les groupes armés qui sont cités dans la résolution 2098 qui l'a créée, donc la résolution qui a confié à cette brigade notamment le mandat de la neutralisation des forces négatives parmi lesquelles les ADF étaient cités. Mais en quoi est-ce qu'il y a absence de renseignement sur l'ennemi? L'on a comme l'impression que les FADC se battent contre un ennemi qu'elles ne connaissent pas. Mais aussi la géographie, comme nous les soulignons en géostratégie, sert à faire la guerre. L'armée ne semble avoir pas maîtrisé, n'est-ce pas? Le terreau ne semble pas avoir des informations précises sur la localisation de l'ennemi et aussi la motivation, sans compter évidemment le souci de ravitaillement de ceux qui sont dans la base, de massacre, n'est-ce pas? Mais aussi les dysfonctionnements internes à l'armée, il est impensable que dans la région, selon les informations de 2019, ces 14 généraux qui ont été déployés dans la région soient incapables, n'est-ce pas, de contenir ces menaces sécuritaires dans le Beni, voyez-vous. Donc, rien que l'opération en Sokola 1, en une année, en 2019, selon les informations disponibles, ont englouti entre 6 et 10 millions, n'est-ce pas, de dollars à l'État congolais. Mais on constate désormais que la situation des ADF est désormais à la base d'une sorte d'affairisme dans la région.
Professeur, alors, voilà, vous, vous avez évoqué un certain nombre de facteurs, n'est-ce pas, qui pourraient expliquer la persistance de l'insécurité. Et 6 ans après le début des massacres, professeur, pourquoi on n'arrive toujours pas, si ce sont ces facteurs qui ont été décelés, pourquoi on n'arrive pas à combler ces déficits?
Ben, évidemment, il y a un paradoxe à ce niveau, dans la mesure où les actions qui sont évidemment menées face aux présumés ADF devraient conduire, n'est-ce pas, l'État congolais de manière permanente à l'évaluation des forces et des faiblesses, des stratégies, n'est-ce pas, qui ont été mises en œuvre de manière à contenir efficacement ceux qui sont évidemment considérés à tort ou à raison comme étant des ADF malous. Mais ce qu'il faudrait souligner dans cette dynamique, c'est le fait qu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo semblent aussi, de temps à autre, selon le constat qui a été fait sur le terrain, de concentrer, n'est-ce pas, les efforts autour, n'est-ce pas, de la zone où l'ennemi n'est pas actif. C'est le constat qui a été fait, par exemple, en 2019, où on s'est rendu compte que les efforts, n'est-ce pas, des forces armées étaient beaucoup plus concentrés autour de Beni, alors que le massacre s'intensifiait plutôt dans ce qui est appelé le triangle de la mort, c'est-à-dire Oïcha, Mbaou et évidemment
Voyou.
Donc, à cela, il faudrait ajouter la faible collaboration entre les forces de sécurité et la population locale.
Merci, lieutenant Anthony Mwalushai. Il y a des auditeurs et internautes qui ont donné leur point de vue par rapport à ces sujets. Et vous allez réagir à cet auditeur qui nous appelle depuis Uvira, au sud de Kivu.
Rémi Nikabo, depuis la ville d'Uvira. J'estime que les dirigeants congolais devraient étudier de nouvelles stratégies pour en finir une fois pour toutes avec la sécurité et les questions rebelles à l'est du pays. Non seulement les ADF tuent et violent, mais d'autres groupes armés appelés à des mouvements nationaux devraient être contraints de déposer les armes. Si les FARDC, appuyés par la MONUSCO, ont échoué, je crois que la RDC devrait recevoir recourir à d'autres forces des pays amis. C'est depuis l'ère Mobutu que les forces armées de la RDC n'ont remporté aucune guerre sans appui externe. Molele de 1964, Jan Scram de 1967, la guerre dite de 80 jours, les M23, etc. Tout le monde constate, non sans étonnement, que la MONUSCO qui dit appuyer les FARDC a été déchiée par ces ADF et d'autres groupes armés. Que la RDC n'ait pas honte d'étendre la main aux pays amis, c'est la Tanzanie, l'Angola, et dans moins de temps, on peut mater cette rébellion.
Oui, lieutenant Anthony Mwalushai, vous ne pensez pas qu'après 6 ans, n'est-ce pas, des massacres de population à Beni, il faille maintenant commencer à repenser les stratégies, il faille commencer à exploiter d'autres paradigmes comme le propose cet auditeur qui nous appelle depuis Uvira au sud de Kivu.
D'accord, merci beaucoup. Et ce que moi j'ai retenu, l'essentiel de ce que l'auditeur vient de dire, c'est qu'il a parlé évidemment des stratégies, des nouvelles stratégies, et aussi la problématique des groupes armés. Évidemment, il peut avoir raison. Mais je vais dire à l'auditeur que l'armée congolaise, c'est une armée à féliciter. Le travail qu'a fait l'armée congolaise dans cette région, et c'est bien de parler de bons français, de philosopher dans des millions de kilomètres, sans savoir la réalité sur le terrain. J'insiste, ce qui se passe sur le terrain, c'est voulu et entretenu par certains politiques. Je m'en veux comme preuve. Je demande à l'honorable qui parle de la légèreté et du mauvais commandement dans cette opération. C'est son point de vue, je respecte ça. Est-ce que tu peux me dire là où est l'ancien maire de la ville de Beni qui a été écarté de ses fonctions parce qu'il a dit justement la vérité que la sécurité à Beni est entretenue par certains politiques. Il a été viré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le problème ici, c'est qu'on n'aime pas la vérité, c'est ça. Regardez ailleurs. L'honorable est venu ici avec l'affaire de QG avancé civil, je ne sais pas, qu'on peut lui-même chapeauter ce QG avancé. Est-ce qu'il peut avoir le courage de nous donner le bilan de ce QG? Ou l'honorable peut nous dire à ses nombreux auditeurs qui nous écoutent ce soir, pourquoi il avait scanné la fréquence de l'armée et donné les Motorola, ces Motorola, à ces jeunes, y compris même les ennemis. Nous avons suivi le commandement de ces jeunes à Bolongo, nous étions là-bas avec ce même Motorola en tête de suite. Croyez-moi, honorable, il y a déjà les Maï-Maï arrêtés avec ce Motorola qui sont au niveau de l'auditorat et l'audience est en cours. Peut-être vous serez invité pour apporter des éclaircissements. Ne vous en faites pas, l'armée est en train de travailler. Nous avons déjà compris le jeu. Le jeu a commencé avec le général Mundos, le général Mbangu, tout ça. C'est la même chanson. Aujourd'hui, vous réclamez le général autochtone à la tête des opérations. Mais c'est dans quel pays où chaque fois vous vous imposez toujours avec la même chanson? Vous pensez que le général autochtone viendra faire le miracle là où ou bien il va commander les opérations seules? Non, il aura besoin de tout le monde. S'il y a quelque chose qui se joue en cachette et que vous pensez que non, dans cette région, la guerre va se terminer au moment où un général autochtone sera à la tête des opérations. Il faut le dire ouvertement, nous allons quitter et puis vous laissez votre général avec vous, vous allez le prier et terminer la situation. Notre problème, c'est que la population vit en paix. Nous n'avons pas des intérêts ici, comme on le dit souvent, que nous sommes des appelistes. Nous n'avons rien à gagner dans cette opération. Nous avons accepté de se sacrifier, de laisser très loin nos familles, de venir ici parce que c'est l'affaire Congo. Si on était en dehors du Congo, peut-être n'allait pas le faire. On est en train de souffrir ici, c'est parce que ce sont nos frères congolais.
Vous n'avez pas réagi à l'analyse du professeur Aguenonga qui a parlé de l'absence des renseignements exacts sur les assaillants, qui a parlé aussi du dysfonctionnement, n'est-ce pas, au sein des FRDC.
Oui, je veux dire à ce que le cher professeur a dit. Le cher professeur pense qu'il n'y a pas de bons renseignants, on ne fournit pas l'armée le renseignement. Non, c'est le contraire, monsieur. Nous faisons face à un ennemi qui est tout le temps mobile. Et à chaque fois que vous avez l'information, vous arrivez sur le terrain, il est déjà à un autre endroit. Nous anticipons parfois. Je pense que c'est bien de dire, de critiquer, parce que vous êtes loin, c'est votre point de vue, mais on respecte les remarques, on les garde, ce qui est dans le bon, qui peut aider l'armée, on prend en compte, mais pensez pas qu'on est en train de rejeter tout. Merci. Ça ne tombe pas dans les oreilles du sourd, on est en train d'accumuler. Ce qui est important, on va appliquer sur le terrain, et ce qui est réfutable, comme on sait que notre cher honorable est en train de dire là, ce n'est pas différent de ce que pense l'homme de la rue. Nous pensons qu'en tant qu'intellectuels, nous devons élever les débats. Nous ne devons pas à chaque instant revenir sur les mêmes chansons. Ce sont des chansons vieilles que nous avons déjà entendues. Et je pense que ce n'est pas vraiment honorable qui peut nous faire une leçon de morale.
Merci, lieutenant Anthony Malouchaï. Paul Lomuindo, il y a aussi un auditeur qui nous écrit depuis Mbandaka. Il s'appelle Junior Bompongo. Il dit « L'insécurité qui sévit dans la partie est du pays inquiète non seulement la population première victime des attaques odieuses, mais même aussi en mal les contrôles de l'intégrité territoriale de notre pays. Face à cette situation, le président de la République, commandant suprême des forces armées, peut toutefois nous aider à concrétiser sa promesse électorale qui, jusqu'à ce jour, le mythe demeure tout entier et son attention est tournée vers l'Union sacrée qui me semble être la continuation de la coalition FCC-CACH version 2021. Et Paul Mouindo.
Oui. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je voudrais d'abord demander à mon co-débatteur de s'apaiser. Je comprends qu'il est agité, qu'il commence à dire des choses qui ne sont pas aussi bonnes par rapport à la qualité du débat que nous menons. En fait, je l'ai entendu dire que l'honorable Mouindo s'est promené dans des bureaux pour solliciter les changements du commandant à place. Et c'est ça le grand problème. Et j'ai comme impression que notre ami Anthony a des problèmes de formation où il a besoin de toujours savoir ce que fait l'honorable Paul Mouindo Moulindé-Vamawa. Je voudrais déjà lui dire d'emblée qu'il n'y a pas de problème. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut lui mettre en contact avec notre assistant qui lui mettra toujours au parfum de ce que nous faisons en tant qu'élu du peuple. Pour votre information, nous avions été avec différentes autorités pour solliciter d'abord à ce qu'on puisse doter notre armée de la nourriture. Solliciter à ce que les transferts de fonds ne puissent plus transiter par des mécanismes qui font aujourd'hui qu'on puisse avoir des retards, mais que cela se passe directement de Kinshasa vers Beni. Mais également, on ne peut changer que l'équipe qui a échoué. Donc, une équipe qui a gagné, on ne la change pas. Aujourd'hui, prenez les bilans du territoire de Beni. Tout un secteur est abandonné, cher Anthony. C'est une honte. Aujourd'hui, tenez le fait qu'il y a des populations qui ont été beaucoup égorgées, c'est quand même anormal. Prenez le fait qu'il y a les adeptes ont prévenu qu'ils vont venir attaquer Boulongo. Ils avaient prévenu qu'ils vont venir attaquer ma maison. D'ailleurs, nous avions alerté les services spécialisés pour dire que notre galerie de Boulongo est dans le viseur des ennemis. On disait parce que l'honorable Baumawa critique beaucoup le fait que ce n'est pas sa Beni, nous allons nous attaquer à lui. D'ailleurs, les mêmes personnes, d'après ce qui s'était rescapé, nous ont dit qu'ils voudraient même s'attaquer à ma famille, même à notre personne. Nous n'allons pas avoir peur. Voilà, ça c'est un. La deuxième précision, il a parlé de Motorola. Je voudrais informer au porte-parole que l'honorable Baumawa n'est pas un vendeur de Motorola. Les Motorola sont vendus partout. Mais il faut dire que nous avions reçu une demande. La demande était venue du bourgmestre de la commune de Boulongo, qui n'avait pas de moyens de communication à terme, n'est-ce pas, de communication locale. Nous avions reçu la demande du commissariat de Boulongo. Et lorsqu'on avait reçu cette demande, parce que nous avons des preuves de cela, nous avions envoyé des moyens au niveau de toutes ces autorités.
Paul Mouindo.
Nous avions appuyé, n'est-ce pas, ce que nous appelons ce qui était comme leurs besoins, leurs demandes. On avait doté à la police des Motorola, mais également à l'autorité et à la commune.
Paul Mouindo, nous n'allons pas entrer, s'il vous plaît. Nous devons évoluer dans le débat. On ne va pas entrer dans tous les détails, peut-être qu'ils ne vont pas nous servir dans cette émission. Mais on constate, lorsqu'on vous suit, vous ainsi que le lieutenant Anthony Mualushai, ce qui apparaît, c'est que 6 ans après les massacres qui ont fait plus de 4000 morts, et on constate que vous ne parlez pas le même langage. C'est-à-dire, vous, élu, qui êtes censé être en contact avec les populations, et les FRDC, n'est-ce pas, qui se battent sur le terrain, qui sont aussi censés collaborer avec la population, vous ne tenez pas le même langage. Vous ne pensez pas que cela soit aussi, n'est-ce pas, à la base de l'inefficacité dans les opérations contre les rebelles EDF?
Effectivement, c'est un problème. Et je voudrais d'ailleurs appuyer davantage sur cela. C'est un problème parce que lorsqu'on ne voit pas de la même manière, lorsque l'armée voit tous les Landais comme des adeptes, comment ils peuvent prendre en considération ce qu'ils apportent comme information? Il y a des éléments qui font que la confiance puisse disparaître. Et c'est sur base de ces éléments que les élus nationaux ont toujours essayé d'approcher l'armée pour dire travailler sur cet élément afin que la confiance soit rétablie. Lorsque nous étions à Beni, nous étions avec le chef d'état-major général des FRDC. Nous avions fait une sensibilisation avec l'armée congolaise. Nous étions à Oucha, avec le général, à Mutuanga, pour demander à ce que la population puisse collaborer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que deux fois, des personnes qui viennent pour donner des informations, la plupart sont souvent arrêtées par l'armée. Ou soit transformées, n'est-ce pas, comme les collaborateurs des adeptes.
Merci honorable, nous avons compris. Professeur Chaubert Aguedonga, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Arou.
Professeur Benjamin, à provenance d'Arora, à territoire d'Arou. À mon avis, le gouvernement congolais doit discuter avec les leaders de ce groupe armé afin de connaître la vraie cause de ce qui est le sable éternel. Sans cela, la souffrance de la population ne prendra pas fin. En plus, les efforts consentis par nos voyants militaires resteront vains.
Oui, professeur Chaubert Aguedonga, cela nous permet, n'est-ce pas, de répondre à notre deuxième question. Que faire pour arrêter les massacres à répétition contre les civils dans Beni? Ça, c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut proposer pour que définitivement on mette fin à ces massacres et que la paix puisse être rétablie dans cette partie du pays?
Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir rapidement sur ce que l'auditeur a proposé tout à l'heure. Donc, selon lui, il faudrait négocier avec les groupes armés qui sont à la base du massacre à Beni. Mais écoutez, les gens qui sont à la base des massacres à Béni, ils ne sont pas connus, leurs motivations ne sont pas non plus connues, donc on ne peut négocier qu'avec des personnes identifiées et dont les motivations sont connues, donc ça c'est la difficulté majeure à ce niveau-là. Alors revenons aux pistes de solutions pouvant permettre à planter durablement le havre de paix dans le territoire de Béni. Il faudrait parvenir tout simplement à repenser, n'est-ce pas, le secteur de renseignement dans ce territoire qui a accusé d'ailleurs son inefficacité devant des caméras du monde entier. Il faudrait identifier le réseau interne et externe qui s'est ramifié à travers ces bandits des grands chemins qui tuent dans les territoires de Béni, mais la fin de violences ou même de l'insécurité dans les territoires de Béni passe par la justice. Il faudrait parvenir à établir une commission maître qui identifie les responsables qui sont à la base de massacres dans les territoires de Béni et à mettre sous pied une justice initiative, c'est-à-dire une justice qui soit à mesure de réprimer les criminels, les bandits des grands chemins qui sont à la base de massacres dans le territoire de Béni. La fin de violence dans les territoires de Béni passe aussi par le renforcement de collaboration entre le militaire et la population du territoire de Béni, mais certainement il faudrait venir en aide aux victimes des violences du territoire de Béni. Et enfin, il importe également de renforcer les contrôles, n'est-ce pas, de la frontière de la République démocratique du Congo, parce que le diagnostic démontre qu'aujourd'hui, parmi les gens qui tuent dans le territoire de Béni, il y aurait des étrangers, mais il y a aussi un trafic, n'est-ce pas, illicite d'armes légères et de petits calibres qui permet aux criminels d'opérer impunément dans les territoires de Béni.
Merci, professeur. L'État, Anthony Mualouchaï, ça sera sous peu de conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Il faut arrêter les massacres des civils à Béni. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on mette fin à ces massacres? Vous avez suivi le professeur. Qu'est-ce que vous allez ajouter pour qu'on mette fin définitivement à ces massacres?
Tout à fait avec le professeur. En tout cas, je suis vraiment content de ces propositions. Mais au-delà de ce que le professeur a dit, je vais ajouter que la justice, vous savez, nous sommes dans un pays des droits. Tout ce qui s'est passé ici depuis le début du massacre dans la région de Béni continue parce que quand on identifie les réseaux, on donne des rapports, on ne punit pas. Parfois, on pense que quand on a l'immunité par l'inventeur, on est au-dessus, on est un petit Jésus. Non, personne n'est au-dessus de la loi. Nous demandons que la justice soit faite. Dès que quelqu'un individu démoralise les troupes sur le terrain, il est évident que ce monsieur soit traduit devant la justice. Ça, c'est un. Aux honorables députés, aux leaders de la région, je leur demande d'éviter le populisme dans la question sécuritaire, qu'il faut parler avec sa tête et non avec son cœur. Nous sommes en train de faire face à un ennemi qui veut à tout moment nous diviser. À chaque fois que nous voulons nous discuter pour rien, je pense qu'à mon avis, nous allons faire le jeu de l'ennemi.
Merci, honorable Paul Mouindo. Il faut mettre fin au massacre des civils à Béni. Et à cet effet, vous proposez quoi? Ça sera sous votre conclusion.
Il faut dans un premier temps que notre armée et nos services puissent toujours prendre à compte les alertes données. Et ici, il faut que la justice soit activée. Il faut qu'on arrive à sanctionner tout acteur qui peut être alerté en avance et qui n'arrive pas à intervenir jusqu'à mener à la mort des populations. Donc, qu'il soit un commandant, qu'il soit un général, qui à un certain moment a été alerté et qui n'a pas agi, il doit totalement être condamné. Il faut, comme le professeur l'a dit, nous l'avons toujours dit, que la chaîne des renseignements doit être repensée. Et cela, c'est une urgence. Et il faut ajouter également le fait qu'il faut que les services au niveau de Béni puissent être sincères dans leurs rapports. Il faut éviter, comme je l'ai reproché à mon ami Anthony, de faire une globalisation. Tantôt on voit des coqs-à-l'âne, ce sont des règlements des comptes, tantôt c'est solidaire, tantôt on dit ce sont les islamistes, tantôt ce sont les Nandés, les Mouba, et ça c'est une confusion
qui trouve, n'est-ce pas, de l'amateurisme dans ce qui se fait.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique. Merci à Kélène Kouté et Dounama Dimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. À la présentation, Guy Maté. Merci, meilleurs vœux pour 2021 et bonne suite des programmes sur Radio Capi.